excellente question pour vous. L'humanité est-elle capable de régler ses problèmes par elle-même? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et salutaire. Aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, quelle joie pour moi de continuer à recevoir tout ce bon enseignement avec vous aujourd'hui. On continue bien sûr dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et je suis certaine que le Seigneur n'a pas fini de nous épater par le puissant enseignement qu'il nous donne dans ce livre. Alors voici nos questions. L'apôtre Jean a-t-il réellement vu et entendu ce qu'il nous décrit dans le livre de l'Apocalypse? Qui détient le titre de propriété de la planète Terre? Pourquoi Dieu a-t-il conclu une nouvelle alliance avec son peuple? L'humanité est-elle capable de régler ses problèmes par elle-même? Qui est assez compétent pour régner sur cette terre? Pourquoi appelons-nous Jésus l'agneau de Dieu? Pourquoi l'appelons-nous le lion de Juda? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de répondre à chacune de nos questions par la parole merveilleuse de Dieu. Mais premièrement, exprimons ensemble notre reconnaissance envers le Seigneur pour cette parole qui nous fortifie, qui nous éclaire sur le chemin qui nous mène à lui. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants. On veut te dire merci de tout notre cœur pour ta parole qui vient nous fortifier chaque fois qu'on l'entend, qui nous éclaire, qui met la lumière sur nos ténèbres, qui nous amène à la repentance, qui nous fait voir ta bonté, ta grâce. Touche nos cœurs aujourd'hui, fais-toi connaître à nous, fais-nous connaître tes désirs et guide-nous, Seigneur, guide-nous sur ce sentier qui mène à toi. On a besoin de toi, mon Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, le livre aux sept sceaux. Le chapitre 5 commence avec la conjonction « puis », indiquant qu'il est relié avec le chapitre précédent. En fait, la division du chapitre demeure arbitraire, puisque le sujet reste le même. Chers amis, lisons Apocalypse, chapitre 5, verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Je vis. » L'apôtre Jean est le témoin oculaire de ces événements. Je pense que nous devrions faire appel à tous nos sens lorsque nous entendons ou lisons la parole de Dieu, surtout lorsqu'il s'agit du livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean nous raconte ce qu'il a vu et entendu. « Si vous êtes croyant, le même Esprit Saint qui l'a inspiré à écrire habite maintenant en vous. Vous pouvez également vous laisser fortifier par la parole de Dieu. Vous serez alors plus capable d'accomplir la mission pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre. La parole de Dieu peut stimuler tous vos sens, même votre odorat. Par exemple, l'Apocalypse contient certains passages où on peut sentir le feu et le soufre. Ici, Dieu le Père tient un rouleau de parchemin dans sa main. Il est scellé avec sept sceaux. Stafford a attiré notre attention sur le fait que la loi romaine exigeait qu'un testament soit scellé sept fois. Pour nous le confirmer, nous possédons encore des exemplaires des testaments de deux empereurs, Auguste et Vespasien. Cette méthode était donc utilisée à l'époque de la rédaction de ce livre. Par contre, nous savons que dans l'Apocalypse, le chiffre sept ne paraît pas par pure coïncidence. Et ici, il n'est pas utilisé pour se conformer aux coutumes du temps. Godet considère ce parchemin comme le livre de la Nouvelle Alliance. D'autres l'appellent le livre du jugement. Walter Scott affirmait qu'il s'agissait de la révélation de l'intention et du conseil de Dieu pour le monde. Peut-être ne devrait-il même pas avoir de titre, car, en réalité, il est le titre de propriété du monde, comme Harry Ironside l'a suggéré. On se rappelle que, lorsque le peuple d'Israël a été envoyé en captivité, le prophète Jérémie avait reçu de Dieu l'ordre d'envoyer son serviteur acheter un terrain et d'en ramener le titre de propriété. Car Dieu avait promis à Israël qu'il reverrait un jour la terre de ses ancêtres. Nous pouvons voir les détails de cet épisode dans le prophète Jérémie, chapitre 32, versets 6 à 15. Jésus-Christ, le roi du monde. Qui détient le titre de propriété de la planète Terre? Personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons la preuve dans Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Cela suggère que le titre de propriété de ce monde est remis entre les mains de Jésus-Christ, comme nous le verrons plus tard. Il tient le monde où nous vivons entre ses mains. Il l'a créé, il l'a racheté, et ce monde lui appartient. Nous voyons une autre description de ce rouleau dans le livre de Zacharie, au chapitre 5, versets 1 à 3. « Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Et il me dit, « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. » Certains pensent que les 10 commandements sont inscrits sur ce rouleau et que le monde sera jugé par eux. Je n'en suis pas si sûr. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour tenter d'identifier ce rouleau, mais nous ne pouvons pas être trop dogmatiques sur ce sujet. La suggestion la plus probable est que ce livre représente la nouvelle alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu mentionne cette nouvelle alliance à quelques reprises. Entre autres, dans le prophète Jérémie, chapitre 31, les versets 31 à 33. Voici. « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Une nouvelle alliance. Or, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit, dans son épître adressée aux Romains, chapitre 11, versets 26 et 27, je vous en fais la lecture. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Hébreux, chapitre 10, versets 16 à 18. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'ancienne alliance conclue avec Israël dépendait de la bonne volonté humaine. Les 10 commandements enseignent de faire ceci et de ne pas faire cela. Mais l'homme ne pouvait dépendre que de sa propre faible chair pour se soumettre à Dieu, et elle en était bien incapable. Le problème ne venait pas des 10 commandements, car ils sont justes et équitables. Le problème venait de l'homme. Car depuis ses débuts dans le jardin d'Éden, l'homme a hérité d'une fâcheuse tendance à se rebeller contre Dieu. Plusieurs pensent que le fruit défendu était mauvais, ou que l'arbre où il poussait avait quelque chose de particulier. Mais le problème ne résidait pas dans le fruit, mais chez les deux êtres humains, Adam et Ève, qui le regardaient. Fort heureusement, la nouvelle alliance ne dépend pas de la faiblesse humaine, mais de la puissance du trône de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons à notre livre, l'Apocalypse, chapitre 5, lisons le verset 2. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui aimerait avoir le droit de propriété sur ce monde? Qui aimerait régner sur lui? Beaucoup de politiciens, d'hommes riches ou de scientifiques pensent être mieux placés pour diriger ce monde. Mais dites-moi, combien d'entre eux seraient prêts à donner leur vie pour sauver le monde? Combien d'entre eux pourraient vraiment y établir la justice, la paix et le droit? Au début du XXe siècle, l'homme avait atteint un niveau d'orgueil assez élevé pour croire qu'il pouvait lui-même régler ses problèmes. Mais aujourd'hui, peu d'entre nous entretiennent encore ce genre d'illusion. Et pendant tout ce temps, la Bible enseignait clairement que l'humanité pécheresse en était incapable. Un ange puissant crie d'une voix forte. Car cette alliance a besoin d'une puissance surnaturelle pour fonctionner. La seule personne digne d'ouvrir le livre, verset 3, est personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Aucun descendant d'Adam ne possède le droit d'ouvrir le livre et de diriger ce monde. Cependant, plusieurs ont essayé de le faire. Adam a perdu la domination sur le monde que Dieu lui avait donné à cause du péché. Moïse a apporté la loi de Dieu aux hommes, mais il l'a aussi enfreint. Aucun fils d'Adam n'est digne d'ouvrir le livre, car le roi doit être en même temps le rédempteur. Le Seigneur de l'humanité doit en même temps être son sauveur. Et Jésus-Christ est le seul à pouvoir réclamer ses titres en toute justice. « Retire-toi, Adam, car tu n'es pas digne de régner, ni aucun de tes enfants. Satan tente de régner sur le monde, mais il n'y parvient pas, lui non plus. La question est de savoir qui en est capable. » Lisons le verset 4. « Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » L'apôtre Jean est affligé au plus haut point par ce tableau. Il voudrait connaître le contenu du livre, mais même les anges n'en ont pas le droit. Jean vient de la terre, mais il fait partie du drame qui se déroule sous ses yeux. Il a écrit l'Apocalypse avec ses larmes. La terre doit-elle vivre à jamais dans le péché, l'ignorance et le chagrin? N'y a-t-il aucun espoir? L'apôtre Paul est habité des mêmes sentiments envers la création lorsqu'il s'écrit. Dans Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. N'existe-t-il personne d'assez compétent pour régner sur cette terre? L'apôtre Jean est hanté par la possibilité qu'il ne puisse trouver personne à la hauteur de la situation. Car si ce monde ne manque pas d'ambitieux pour vouloir régner sur ce monde, aucun ne possède assez d'amour et de sagesse pour le faire équitablement. C'est pourquoi l'apôtre Paul renchérit dans Romains chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Personnellement, je ne connais pas de doctrine plus pessimiste que l'évolution. On se demandera ensuite pourquoi tant de jeunes se suicident. Avec quel espoir peuvent-ils entrevoir l'avenir si cela nous a pris des millions d'années pour nous rendre là où nous sommes présentement? Quel espoir reste-t-il à l'humanité si cela doit nous prendre quelques autres millions d'années pour apprendre à distinguer le bien du mal? N'existe-t-il personne pour nous aider à résoudre nos problèmes? Peu d'entre nous croient encore que nous pourrons parvenir à obtenir une paix durable pour notre temps. Même l'Église prétend parfois qu'elle peut résoudre les problèmes du monde. Mais en réalité, personne n'est qualifié pour ouvrir ce livre et assumer la responsabilité de cette terre où nous nous trouvons. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean pleure. Mais heureusement, quelqu'un vient et il sera capable d'ouvrir le livre. Jésus-Christ, le lion et l'agneau. Apocalypse, chapitre 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Selon toute évidence, ces vieillards auraient pu répondre, car ils n'étaient pas spirituellement aveugles. Et je crois que cela nous aide à les identifier comme étant la véritable Église, maintenant montée au ciel. Car, dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 15, Jésus enseigne « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ce lion de Juda est le Seigneur Jésus-Christ. Il possède le droit de propriété sur cette terre. Non seulement il a racheté les siens, mais il a racheté la terre entière. Et cette section nous décrit tous ces ministères qui se rapportent à la terre. Ce bout de phrase, le lion de la tribu de Juda, l'identifie bien sûr avec la tribu de Juda et le peuple d'Israël. Avant de rendre l'âme, le patriarche Jacob a appelé à lui ses 12 fils. Et voici sa prophétie concernant Juda, écrite dans le livre de la Genèse, chapitre 49, versets 9 et 10. « Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Le Seigneur Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est aussi le rejeton de David. Dans 2 Samuel chapitre 7, il est question de l'alliance de Dieu avec le roi David. Il lui annonce au verset 12 et 13, « J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Le Seigneur Jésus a obtenu le droit de régner, car il est l'accomplissement des prophéties faites dans l'Ancien Testament concernant l'avenir du monde. Certaines d'entre elles se sont accomplies lorsqu'il est venu marcher parmi nous il y a 2000 ans. Les autres s'accompliront lorsqu'il reviendra sur terre y établir son royaume. Passons au verset 6, toujours de l'Apocalypse chapitre 5. « Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » L'apôtre Jean est encore le témoin direct de cet événement. L'agneau désigne la douceur de Jésus et sa volonté d'être sacrifié pour nous. Il a été l'agneau qu'on mène à l'abattoir et il n'a pas ouvert la bouche, comme l'annonçait la prophétie contenue dans Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Et comme l'enseigne Jean, chapitre 1, verset 29, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Un agneau qui était là comme immolé. Jésus est mort à notre place. Il a subi pour nous le plein impact de la colère du Père suscitée par notre péché. Le caractère violent de sa mort est souligné ici. Mais maintenant, il est ressuscité, car dans sa vision future, l'apôtre Jean voit l'agneau prendre sa place de juge. Au milieu du trône, précise le texte, indique le fait qu'il a pris sa place en tant que juge de justice. Et son jugement sera la grande tribulation qui frappera toute la terre. Les 7 cornes indiquent son pouvoir absolu. La corne symbolise le pouvoir dans le livre du prophète Daniel au chapitre 7 et 8. Il est tout-puissant. Les 7 yeux indiquent son omniscience. Il connaît tout. En lui réside pleinement l'esprit de sagesse et de connaissance. Le Seigneur Jésus-Christ est en même temps doux comme un agneau et puissant comme un lion. Dans le monde où nous vivons, nous ne sommes pas habitués à voir ces 2 attributs ensemble, car les puissants sont rarement doux et ils se servent de leur pouvoir pour écraser les autres. Quand Jésus est venu marcher parmi nous, il était doux et humble comme un agneau, mais quand il reviendra, il sera fort et majestueux comme un lion. L'agneau était le sauveur. Le lion sera le souverain. il a été jugé en tant qu'agneau. Il sera juge en tant que lion. L'agneau représente la grâce de Dieu. Le lion représente le gouvernement de Dieu. Jésus-Christ, le juge. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le Seigneur Jésus prend sa position de juge pendant la grande tribulation à venir. Il juge le monde avec justice avant de régner sur lui. Il n'intercède plus pour l'Église, car elle est maintenant auprès de lui. Il s'apprête à juger le monde. Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Quand il eut pris le livre, la vision prophétique de l'apôtre Jean voit l'agneau prendre le livre. En prenant le droit de propriété sur cette terre, il prend légitimement le contrôle des opérations. On remarque que ni les quatre êtres vivants, ni les 24 anciens ne s'opposent à ce geste. Au contraire, ils se prosternent devant l'agneau. La harpe, en tant qu'instrument de musique, sert à la louange, et la coupe d'or, telle qu'indiquée, contient les prières d'adoration du peuple de Dieu. Les 24 vieillards remplissent des fonctions semblables aux souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament. On se rappelle que la véritable Église est un sacerdoce de sacrificateurs, à ce moment rendu au ciel. Karl Armerding a attiré notre attention sur le fait que la prière d'intercession de Jésus-Christ en faveur des croyants, dans le 17e chapitre de l'apôtre Jean, de son évangile, est à ce moment exaucée. On se rappelle que Jésus avait demandé que son Église le connaisse, qu'elle soit avec lui et qu'elle puisse contempler sa gloire. Cette faveur est maintenant accordée aux 24 anciens qui représentent l'Église. Les harpes de louange et les coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints sont tenues par ces 24 vieillards. Cela constitue une autre preuve qu'ils représentent la véritable Église de Jésus-Christ. Passons maintenant au verset 9. Et il chanta un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Qui chante ce cantique nouveau? Les êtres vivants et les vieillards, les anges, se joignent à l'Église dans cette céleste louange. Dans le texte original grec, le temps du verbe « chanter » est présent. Nous devrions donc lire « et il chante un cantique nouveau ». Il dénote une action continue. Cette louange a pour objet l'agneau qui tient le livre. Il est glorifié car il a racheté les hommes de toute race à travers les siècles. Ce cantique nouveau est le chant de rédemption. Il se distingue du cantique ancien, qui est le chant de la création. Le livre de Job nous apprend que les fils de Dieu chantaient la gloire du Dieu créateur. Ils ne connaissaient pas encore la réelle étendue de l'amour de Dieu tel que manifesté en Jésus-Christ. Or, maintenant, le croyant peut chanter à la gloire de notre Sauveur qui nous aime et qui s'est livré pour nous. Cher ami, Jésus-Christ est-il devenu ton Sauveur? Un Sauveur personnel? Est-ce que tu reconnais que ce Sauveur t'aime au point de s'être livré pour toi? Oui, il a donné sa vie pour toi. Maintenant, tu dois répondre à son amour. Il te déclare solennellement qu'il t'aime au point d'avoir donné sa vie, afin que toi tu puisses être libéré de ton péché et avoir maintenant l'assurance de la vie éternelle. Qu'attends-tu pour répondre à son invitation? Reçois-le maintenant comme ton Sauveur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse, chapitre 5, les versets 9 à 14. À vous tous, bonne lecture.
Merci, Régent. Tu as dit quelque chose de vraiment frappant en parlant des dirigeants de ce monde. Tu as dit que beaucoup d'hommes riches, de politiciens ou de scientifiques pensent être mieux placés que d'autres pour diriger ce monde. Et ensuite, tu nous as demandé combien d'entre eux seraient prêts à donner leur vie pour sauver le monde. Mes amis, ma réponse a immédiatement été aucun. Quelle est votre réponse? De temps en temps, j'aime regarder des débats entre les dirigeants qui sont dans la course pour devenir soit président des États-Unis ou premier ministre du Canada. Ils promettent des tas de choses et nous savons qu'ils ne tiendront pas la majorité de ces promesses parce qu'on a vu ce qui s'est passé à travers les années qui les ont précédées. Et je suis certaine que plusieurs d'entre eux sont bien sincères, mais qu'ils seront incapables de livrer la marchandise. Qui donc est le seul qui soit capable de gouverner ce monde? Eh bien, on l'a vu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le lion de Juda. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, mon Sauveur et le Sauveur de tous ceux qui croient en lui. J'ai bien aimé ce que Réjean nous a partagé à son sujet quand il a dit qu'il était à la fois doux comme un agneau et puissant comme un lion. Mes amis, il n'y a personne sur la terre qui puisse nous offrir ça, n'est-ce pas? Comme Réjean l'a dit, les puissants sont rarement doux et ils se servent de leur pouvoir pour écraser les autres. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, lui, était doux et humble de cœur. Et en tant qu'agneau, il s'est laissé faire par les pécheurs quand ils sont venus pour l'arrêter. Le verset 7 du 53e chapitre du livre d'Ésaïe nous dit qu'il a été maltraité et opprimé et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Quel sauveur merveilleux! Oh, mes amis, combien Jésus est doux et merveilleux. Et c'est ce même agneau qui est le lion de Juda, ce roi puissant qui est ressuscité le troisième jour après sa crucifixion et qui déploie sa puissance pour sauver des pécheurs comme moi et comme toi aussi, mon ami. Crois-tu en ce Jésus, ce lion de Juda et cet agneau de Dieu? Crois-tu qu'il ôte vraiment le péché du monde, qu'il veut ôter ton péché en ce moment? Crois-tu qu'il est Dieu? Crois-tu qu'il s'est fait homme dans le but de payer la dette de ton péché? Eh bien, crois en lui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus a dit que celui qui croyait en lui avait déjà la vie éternelle. Il l'a dit comme ceci, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Il dit pas que tu l'auras peut-être ou que tu l'auras un jour si tu te forces. Bien non. Alors demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner cette vie éternelle. Reçois l'agneau de Dieu, le lion de Juda, comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur, c'est-à-dire ton maître. Il est un maître doux et humble de cœur qui va un jour t'amener au ciel avec lui pour l'éternité. Reçois cet agneau de Dieu. Il va devenir ton berger et tu vas devenir sa brebis.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.